saluez votre frère à gauche et à droite. On l'a demandé au départ, mais encore, on peut les refaire. Dis-lui encore bon après-midi et bienvenue dans la présence du Seigneur. Je pense, nous étions là la fois dernière, le dimanche passé. Qui était là le dimanche passé? Voilà, c'est une bonne chose. Et là, on a introduit notre série « Une meilleure voie » et on a parlé de la place et l'usage de l'argent. J'ai vraiment aimé le message du dimanche passé. Il y a aussi un devoir à domicile qu'on nous a donné, c'est d'aller méditer le livre des Proverbes du chapitre 1 au chapitre 9. Je ne sais pas ceux qui ont pu lire. Oui, il y a un frère qui a pu lire. Oui, il y a lui aussi. Si tu peux nous partager juste un extrait de ce que tu as tiré de ta méditation, ça pourra aussi bénir l'ensemble. Tu peux partager ta bénédiction dans la lecture. Ok, est-ce qu'on peut l'encourager? Voilà, vous dites votre nom et ce qui vous a beaucoup plus béni.
Moi, c'est Floribert Abelouvalé. J'ai été béni dans la lecture de Proverbes, les sens où on est en train de s'adresser à son fils et on est en train de prodiguer des conseils avec tendresse et avec amour. La plupart des temps, quand on nous offre des conseils, dans l'expérience que nous avons, certaines personnes offrent des conseils avec un langage qui blesse, avec des attitudes pour diminuer la personne qui doit recevoir des conseils. Mais j'ai pris le modèle de la Bible. Quand on entre dans les disciples, on dit « Mon fils, écoute les paroles, écoute la sagesse. » C'était un langage tendre, un langage qui passe les messages sans blesser et sans diminuer la personne qui l'écoute. C'est la grande leçon que j'ai tirée de la lecture que j'ai faite. Merci beaucoup.
Merci, que Dieu te bénisse. Voilà, il y a une autre personne? S'il n'y en a pas, ok, c'est bon. Ah, tu voulais aussi parler? Il y a la sœur qui est là. Oui.
Merci beaucoup. Moi aussi, j'ai été bénie dans le chapitre 4, au verset 28. Là, on nous a dit que si ton prochain te demande quelque chose, ne lui dis pas que tu vas lui donner demain lorsque tu en as. J'ai été bénie parce que c'est un livre de conseils pour toute la vie. Amen.
Amen. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, ma sœur. Est-ce qu'on peut encore acclamer? Là, je vais demander à la sœur Annette.
Est-ce que vous pouvez m'encourager, s'il vous plaît? Nous allons juste donner de nos offrandes d'action des grâces pour tout ce que Dieu a fait, pour tout ce qu'il n'a pas encore fait, pour tout ce qu'il va faire encore. Nous le faisons parce que nous croyons à un Dieu qui est puissant. Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qui se passe dans notre vie, que ce soit le matériel, le souffle, la famille, etc. C'est pour rendre grâce à Dieu. Et pendant ce moment, je vais chanter un cantique. Bon, on s'est ni jugé, ni limba zaman. Mais je vais chanter un cantique qui dit... Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia, merci Jésus, merci Jésus. Cette chanson. À présent, nous allons accueillir l'orateur du jour, Papa Joël Vira, sous nos applaudissements, s'il vous plaît. Très, 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 très fort. Il va prier pour le message et il va continuer. Bienvenue.
Merci beaucoup, Annette et Mary, pour l'introduction et l'officiance. Lèvons-nous pour la prière. Seigneur Dieu, nous te disons grandement merci parce que tu nous accordes ces bons moments d'être dans ta présence. Seigneur Dieu, nous savons que ces moments, ce n'est pas un moment de hasard, mais c'est un moment pendant lequel tu as prévu de nous communiquer quelque chose d'utile pour notre vie. J'ai prié pour mon bien-aimé, ma bien-aimée ici présent. Je prie, Seigneur Dieu, que tout celui qui est ici ne puisse pas rentrer tel qu'il est venu. Je prie, Seigneur Dieu, que tu puisses nous parler, Seigneur Dieu, au sujet de comment nous devons gérer notre temps. Je prie aussi pour moi-même, Seigneur Dieu, ton humble serviteur. Je prie que tu puisses parler à travers moi, que ce ne soit pas moi qui parle, Seigneur Dieu, mais que je ne sois que ton instrument à travers lequel tu vas parler et te manifester, Seigneur Dieu, pour tes enfants. Nous prions, Seigneur Dieu, que ton Esprit Saint prenne contrôle de tous ces instants, dès maintenant jusqu'à la fin, au nom de Jésus. Amen. Prenons place. Bonjour encore. Je vais commencer par poser la question que Emery a demandée, mais je n'ai pas vu beaucoup de réactions. Qui était là le dimanche passé? Manifestez-vous. Qui était là? Ah, c'est la moitié. Donc, il y a une moitié qui n'était pas là. Donc, le dimanche passé, nous avons parlé, nous avons d'abord introduit ce thème sur une meilleure voix. Et nous avons commencé par nous dire pourquoi on parle d'une meilleure voix pour un jeune. En fait, la jeunesse, c'est un âge très crucial. C'est la période vraiment où il faut déterminer sa voix. Soit vous prenez la meilleure voix ou vous prenez la mauvaise voix. Et nous, nous avons l'opportunité, comme enfants de cette église, la direction du comité de la jeunesse, donc le comité du MJC, avec le soutien du leadership de la paroisse, a planifié une série d'enseignements pour nous parler d'une meilleure voie. Et parlant de la meilleure voie, cela sera abordé sur plusieurs sujets. Nous avons d'abord parlé de la place de l'usage de l'argent. Lorsqu'on parle aujourd'hui de l'argent, l'argent, c'est en fait un élément qui fait l'objet de la course dans la vie de chaque jour. Depuis le très jeune âge, nous commençons par l'école. Et lorsqu'on finit l'école, lorsqu'on finit les études, la première chose dans laquelle on s'engage, c'est de chercher une activité qui va vous générer quoi? De l'argent. Parce qu'en fait, le reste de ce que nous allons faire dépend de quoi? De l'argent. Si vous allez vous marier, vous n'allez pas vous marier si vous n'avez pas d'argent. Déjà, lorsque vous allez approcher une dénonceur ici, elle va poser la question, vous faites quoi? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et ça devient maintenant une question réciproque. Je ne dis pas que nos sœurs sont matérialistes, mais c'est quand même un des éléments fondamentaux. Pour s'engager à quelqu'un, il faut savoir cette personne fait quoi. Est-ce que c'est une personne responsable? Et tout ce que nous allons devoir réaliser comme projet, ça demande de l'argent. Et nous avons vu comment les chrétiens devraient se comporter par rapport à l'argent. Parce que nous avons vu aussi plusieurs chrétiens qui sont arrivés à se compromettre par motif qu'ils sont en train de chercher quoi? L'argent. Et nous avons vu que pour nous les chrétiens, toutes les voies ne sont pas permises pour avoir l'argent. Nous devons y aller avec la sagesse de la Bible. Et nous avons vu que le secret, c'est le travail. À partir du Proverbe 6, 6 à 11, là où on parle de la sagesse des fourmis qui n'ont ni maître ni chef, mais peuvent travailler et amasser des provisions pendant des mauvais moments pour s'en servir, disons, amasser des provisions pendant les bons moments et pour s'en servir pendant les mauvais moments. Alors aujourd'hui, nous allons parler de tirer profit de notre temps. Pourquoi nous parlons de tirer profit de notre temps? Parce que nous voyons plusieurs personnes, au fur et à mesure que l'âge avance, on exprime des regrets. On est dit, si j'avais su, je suis formateur en entrepreneuriat et j'ai croisé plusieurs fois des personnes, lorsque je leur parle de l'entrepreneuriat, elles me disent, pourquoi on ne m'a pas dit ces choses quand j'étais jeune? Si j'avais su. Mais cette personne aujourd'hui, elle est dans la soixantaine, cinquantaine. Elle aurait voulu apprendre ces choses quand elle avait quel âge? 20 ans, 30 ans. Elle aurait pris autre décision. Donc ici, nous voulons apprendre de la sagesse de la Bible. Comment nous allons profiter positivement de notre temps pour que demain, nous ne puissions pas nous retrouver avec un sentiment de culpabilité. Un sentiment de quoi? De regret. Un sentiment de quoi? De non-accompli. Vous connaissez, il y a un homme dans la Bible qui, lui, après avoir accompli un vœu, il a dit, maintenant, Seigneur, ton serviteur peut aller se reposer auprès de toi. Qui connaît le nom? C'est qui? C'est Siméon. Et moi, j'ai toujours eu un rêve qu'il faut qu'un jour, j'arrive à dire, Seigneur, je pense que j'ai fait ce que je devrais faire. Maintenant, je peux me reposer. Mais si je vous pose cette question, combien de gens sur les lits de l'hôpital, lorsqu'ils sont agonisants, ont un sentiment de satisfaction? Combien de gens? On dirait combien sur 100? Peut-être moins d'un sur 100. Combien sur 1000? Des personnes qu'on peut retrouver dans les hôpitaux et ils disent, Seigneur Dieu, moi je pense que j'ai accompli ma mission, maintenant tu peux me récupérer. Cela n'est pas souvent le cas. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas bien tiré profit de notre temps. Nous avons eu beaucoup de temps devant nous, mais nous n'en avons pas tiré profit. Alors, notre enseignement d'aujourd'hui va s'étaler sur 8 points. Alors, je ne vais pas citer les 8 points, je vais dire aux médias de nous les projeter. Donc, l'enseignement d'aujourd'hui va s'articuler sur 8 points. Voilà. Et dans les premiers points, nous allons parler de Dieu qui est l'initiateur de la notion du temps à travers l'œuvre de sa création. Ensuite, nous allons voir que la vie des hommes sur terre est limitée dans les temps. Notre vie est limitée. Nous ne sommes pas éternels. Au troisième point, nous allons voir que le temps est la plus précieuse ressource dont nous disposons. Au quatrième point, nous allons définir c'est quoi la vision. Parce que nous allons voir que pour bien profiter de son temps, il faut se fixer une vision. Ensuite, il faut fixer des objectifs, bien planifier son temps, savoir lire ses priorités et dire non à ce qui n'est pas prioritaire. Et à la fin, nous allons voir qu'il faut prendre des moments de repos pour se reconstituer avant de clôturer par les points qui nous orientent comment nous devons mettre Dieu au centre de la gestion de notre temps. Alors nous allons commencer par le premier point où nous voyons que Dieu est l'initiateur de la notion des temps. On ne va pas lire parce que c'est une très longue lecture, mais je vais vous donner le devoir d'aller méditer sur ça. Je vais survoler vraiment quelques versets vu les temps. Nous sommes dans Genèse 2. Plutôt, c'est Genèse 1, je m'excuse, c'est Genèse 1. Nous sommes dans Genèse 1, les versets 2, où nous voyons comment Dieu a commencé à faire sa création. Voilà, là nous sommes au verset 3, Dieu commence avec la création. Les premiers jours, Dieu a fait quoi? Il a créé quoi les premiers jours? Le ciel et la terre, voilà. Et le deuxième jour, Dieu a créé quoi? Oui. Les os. Voilà. Le troisième jour, on parle de la vie végétale. Voilà. Le quatrième jour, voilà, le soleil, la lune et les étoiles. Le cinquième jour, c'est quoi? Le cinquième jour, vit dans les airs et dans les mers. Et le sixième jour, il a créé l'homme. Alors, nous n'avons pas le temps, nous aurions dû faire la lecture intégrale de Genèse 1, du troisième verset jusqu'au 26e, et finir par Genèse 2. Alors, vous voyez voir que tout ce qui existe aujourd'hui, tout ce que nous voyons, Dieu a fait dans combien de temps? Dans 6 jours. En fait, moi, j'ai médité sur ces livres de Genèse et j'ai trouvé que c'est énorme. Je dis, mais pourquoi Dieu a fait dans 6 jours? Pourquoi il n'a pas fait dans 6 ans? Parce que nous, aujourd'hui, pour construire juste une maison, un grand building, ça prend combien de temps? Ça dépend de la taille. Regardez là, Europe, ouais, BD, je suis en train de construire un building. Ça va prendre une année, on construit jour et nuit. Et on est en train de construire que quoi? Une maison. Mais ici, Dieu a tout créé dans combien de temps? Dans 6 jours. Alors, quelles sont les leçons que nous tirons de ça? Donc, Dieu avait au départ une vision de ce qu'il voulait avoir du ciel et de la terre. Il avait d'abord une vision de ce qu'il voulait faire. Il s'est fixé des objectifs et il a arrêté un programme. Il a tout fait avec un programme précis. Il fallait que le sixième jour, il y ait l'homme. Il fallait que l'homme soit là après que tous les préalables soient accomplis pour que l'homme puisse bien vivre. Et Dieu a fait ce qui était prévu chaque jour. Et à la fin de chaque étape, Dieu faisait quoi? Une évaluation. À la fin de chaque étape, Dieu trouva que c'est bon. Et lorsqu'il a fini de tout faire, il a dit que c'était comment? C'était très bon. Donc, c'est-à-dire quoi? Lorsque nous gérons le temps, nous devons aussi faire des évaluations à chaque étape. Est-ce que nous sommes en train de bien nous conduire par rapport à l'étape où nous sommes maintenant? Ce qui est observé aujourd'hui, c'est que beaucoup de jeunes vivent de manière aléatoire. Donc, une journée peut commencer et va s'achever. Il n'y a aucun programme. Alors, si ça vous arrive qu'une journée commence et elle se termine, il n'y a pas de programme, il n'y a pas d'évaluation, sachez que vous n'êtes pas en train de bien profiter de votre temps. Moi, d'ailleurs, actuellement, je m'impose même de planifier anticipativement. Combien d'entre vous ici ont une idée de ce qu'ils auront comme activité jusqu'au 30 juin? Ah, voilà. Bon, on peut vous poser la question. Quel est votre programme du 26 juin? Il a déjà un programme. Mais c'est dommage que beaucoup de jeunes vivent de manière aléatoire. Donc, il n'y a pas de programme. Surtout pendant les vacances. Si on vous dit, venez, on va à telle part, vous y allez. Vous n'avez pas de programme. Moi, j'ai des programmes. Il m'arrive qu'il y a même un match de football. J'ai dit non, ce match de football, par rapport au programme que j'ai, ce n'est pas à la première priorité. Il y en a ceux pour qui, s'il y a un match de football, même si demain il a examen, il doit faire quoi? Il doit d'abord suivre les matchs de football. Je me rappelle, il y avait souvent la CAN au mois de janvier quand on faisait les examens du premier semestre et ça faisait que beaucoup de gens échouent. Parce que beaucoup, au lieu d'étudier, préféraient suivre les matchs. Alors, je vais vous donner un secret. À partir d'aujourd'hui, commencez à vous fixer un programme et faites une évaluation à la fin. Dites-vous, est-ce que j'ai profité significativement du temps que Dieu m'a accordé aujourd'hui? Et faites une évaluation comme Dieu a fait des évaluations à chaque moment. Au deuxième point, nous allons lire dans le livre des psaumes. Nous allons lire dans Psaume chapitre 90, Psaume 90, Psaume 90, nous allons lire au verset 10. Ça nous dit ceci. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'il en tire n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. Voilà, nous nous envolons. Donc, le temps passe vite. Ici, il est dit que notre vie sur terre est comptée pour 70 ans et 80 ans pour les plus vigoureux. Mais notons qu'à nos jours, il y a plusieurs paramètres qui font qu'on n'arrive même pas à 70 ans. Nous avons aujourd'hui les maladies incurables, comme les cancers. Hier, j'ai suivi sur les médias français, il y a le directeur du Reporter sans frontières. Il est mort à 53 ans, avec un cancer. Il a tout le moyen. Il était entouré de médecins les plus compétents du monde. Mais le cancer est venu l'enlever. Steve Jobs est mort à quel âge? C'est autour de 57 ans aussi, entre 53 et 57 ans. Nous avons les épidémies. Lorsque les épidémies arrivent, il y a des personnes qui partent. Et ça ne choisit pas. Ça peut prendre un bébé, un adolescent, un jeune ou un adulte qui n'a pas encore atteint 70 ans. Nous avons les pandémies. Combien de personnes sont mortes suite au COVID? Nous avons les accidents. N'est-ce pas, vous apprenez chaque jour qu'il y a des accidents et quelqu'un est mort. Nous avons les guerres. Vous avez suivi avant-hier, nous avons perdu. RFI a parlé de plus de 60 personnes qui ont été massacrées sauvagement à Beni. Vous avez suivi ceux qui ont été atteints par la bombe à Mugunga. Est-ce qu'ils avaient tous 70 ans? Ils avaient 70 ans? Non. Nous avons les catastrophes naturelles lorsqu'il y a les inondations. Et donc, avec tous ces facteurs, aujourd'hui, c'est une grâce d'arriver à combien? À 70 ans. Cela nous invite à prendre au sérieux la notion du temps et en faire bon usage, car le temps passé ne revient plus. Donc, on ne peut pas dire que moi, je suis encore jeune. Je suis encore dans la vingtaine. Parce que nous irons jusqu'à combien? 70 ans. Mais qui vous dit que vous arriverez à 70 ans? Ces phénomènes sont là. Et d'ailleurs, on n'a pas ajouté à ça d'autres phénomènes aujourd'hui, l'empoisonnement. Que Dieu pardonne tous ceux-là qui pratiquent qui commettent ces péchés. Que Dieu le pardonne et que Dieu nous en éloigne. Que ces gens-là ne soient pas parmi nous. Donc, il y a plusieurs facteurs qui font que ce n'est pas tout le monde qui a la grâce d'arriver à 70 ans. D'ailleurs, nous vivons dans un pays où l'espérance de vie est à quel âge? Notre espérance de vie, je pense que si c'est beaucoup, on est à 60 au niveau de la RDC. Et là, ce sont des scientifiques qui combinent plusieurs facteurs et qui essaient de projeter quelle est l'espérance moyenne de la vie d'un Congolais. J'ai vu des familles, quelqu'un m'a dit, mais dans ma famille, il n'y a pas de vieux. Les gens meurent jeunes. Donc, il y a plusieurs paramètres. Nous allons voir au troisième point que le temps, c'est la plus précieuse ressource dont nous disposons. Alors que nous parlons de l'argent, notons que le temps a de la valeur même plus que l'argent. J'ai toujours dit que le temps, c'est l'unique ressource dont nous disposons de manière égale. Les pays qui sont développés comme le Japon, ils ont une journée de combien d'heures? De combien d'heures? La journée en Corée du Sud, elle a combien d'heures? Aux États-Unis, la journée a combien d'heures? Méditant sur cette question, j'ai réalisé en fait que il faudra une étude approfondie, mais il n'est pas exclu que ce qui différencie les riches et les pauvres, c'est aussi la manière d'utiliser de son temps. Donc, la manière dont vous utilisez votre temps peut faire que vous soyez riche ou pauvre. Même même ceux qui vont rater les royaumes de Dieu. Il y en a ceux qui vont rater les royaumes de Dieu parce qu'ils n'ont pas bien utilisé de l'air. Donc, combien de gens disent, je suis encore jeune, tout vous ne quoi m'y fout pas. Il y a un jeune. Et demain, vous ne savez pas, vous allez mourir à quel âge? Combien sont morts? Et la mort les trouve là-bas. Parce qu'il n'a pas bien profité de son temps. Profiter de son temps, c'est aussi vivre en harmonie avec son Créateur de manière permanente. Parce que vous ne connaissez pas ni les jours ou les temps où le Seigneur viendra vous prendre. Pasteur, combien de fois vous avez été au cimetière pour faire un culte d'adieu à un enfant, n'est-ce pas? Si on demandait au pasteur, depuis janvier, vous avez été au cimetière pour les gens de quel âge? Est-ce que c'est seulement les vieux qui sont morts? Il y a eu des jeunes, des adolescents, des bébés. Donc vous ne savez pas quand est-ce que Dieu va vous récupérer. Une raison de plus de bien gérer notre temps, là c'est par rapport à notre communion avec Dieu. Je dois me rassurer que ma vie n'a pas un brio. J'ai toujours dit ça à tous ceux qui me fréquentent, que notre vie c'est un livre qui s'écrit avec de l'encre indélébile. Donc tout ce que vous faites, c'est un livre, c'est original. Vous ne pouvez pas dire d'abord ça c'est un brio, et puis on va effacer, maintenant je vais vivre quoi? Les propres. Même quand vous vous retrouvez seul, en train de commettre du péché, sachez que ça fait partie de votre livre en fait. Un jour vous vous retrouverez devant Dieu, devant les jugements, pour rendre compte. Donc nous devons bien user de notre temps pour bien vivre et ne pas arriver à les regretter. Et cela dans toutes les dimensions de notre vie. Si vous êtes étudiant, vous êtes élève, profitez bien de votre temps. Je vois souvent beaucoup d'élèves, beaucoup d'étudiants, c'est quand on annonce la session qu'on s'embrie en voulant réviser les notes. Je me rappelle, lorsque j'étais en deuxième licence, j'avais vraiment des objectifs ambitieux. Je ne voudrais pas traîner à l'université. Et quand on a commencé L2, directement j'ai commencé à faire mon mémoire. Et avant qu'on affiche la date de dépôt de mémoire, mon mémoire était déjà prêt. Je l'avais déjà fini. C'est quand on a dit, on affiche maintenant la date de dépôt, maintenant je suis venu déposer parmi les premiers. Mais aujourd'hui, je vois beaucoup de gens, vous allez même à la troisième session, pourquoi? Parce que vous avez mal géré votre temps. Vous pensez que vous avez du temps et après vous n'en avez pas. Et ça devient ridicule. Au quatrième point, nous allons maintenant parler de la vision. Ici, nous voyons la vision comme ce à quoi vous aspirez dans un moment donné. Je vais donner l'exemple. Je suis un jeune étudiant, j'ai 20 ans aujourd'hui, mais je me fais la vision que d'ici 10 ans, je vais être dirigeant de ma propre entreprise, je vais être responsable d'une famille et je vais être pleinement engagé pour l'œuvre de Dieu. Ça, c'est l'exemple d'une vision. Alors, qui a une vision pour ces prochaines 10 ans? Soyez sincères. Applaudissons pour nous. Moi, j'ai ma vision. Merci beaucoup. Applaudissez encore pour vous. Merci beaucoup. Depuis 2020, j'avais une vision pour 2030. Je vous en épargne des détails. C'était une vision très ambitieuse. En 2010, j'avais une vision pour 2020. Quand j'arrive à 2030, je vais encore me fixer une vision pour 2040. Je me fais toujours 10 ans. Et pendant les 10 ans, je travaille en fonction de cette vision-là. Toutes mes activités sont faites en fonction de l'atteinte de cette vision-là. Aujourd'hui, nous voyons des jeunes, vous arrivez à 40 ans, vous réalisez que vous n'avez rien fait. Moi, je pose souvent les questions aux jeunes. Aujourd'hui, les jeunes de mon âge. Je dis, aujourd'hui, vous voyez un jeune de 40 ans, il n'a presque rien réalisé. Mais je vous dis, mais vous, à votre père à 20 ans, il avait déjà réalisé quoi? Rentrez un peu en arrière. Notre génération a fait été en train de reculer. Vous trouvez un jeune, il a 30 ans, ils n'ont rien fait, en fait. Vous n'avez rien fait. Mais posez-vous la question, à 30 ans, votre père avait déjà fait quoi? Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est un peu révoltant, mais si vous voulez plus vous révolter, c'est de revenir en arrière. Nous sommes une génération qui est en train de marcher à vitesse trop lente. Nos parents étaient très en avance que nous. Or, c'est l'inverse. Ça devait être l'inverse. Eux n'ont pas eu l'éducation que nous avons eue. Comment nous nous retrouvons en retard que nos parents? Nous devrions faire plus qu'eux. Est-ce que le système éducatif nous a corrompus ou c'est quoi? C'est vrai, ça va vous révolter, mais il faudrait que ça soit une révolte positive et que vous vous engagez à partir de ce moment de commencer à marcher partant d'une vision. Donc si vous n'avez pas une vision dans les 5-10 ans à venir, vous êtes en train de naviguer à vue comme un bateau qui se retrouve au milieu de l'océan ou du lac et le moteur ne marche pas, il n'y a pas de voile. Donc le bateau peut aller n'importe où. Alors il faut éviter ça parce que c'est dangereux. Lorsque vous avez une vision, il faut maintenant l'éclater en des objectifs. Et là, nous sommes au cinquième point. Ici, il est question de définir des paramètres qui vous permettront d'évaluer si, à différentes étapes, votre vision est en train de se matérialiser. Donc, vous devez vous faire des objectifs. Ma vision d'ici 2030, c'est de réaliser ceci. C'est d'avoir, par exemple, mon entreprise. Il y a d'autres, pour d'autres, qui vont faire la théologie. Ma vision, c'est d'être un pasteur titulaire d'une grande paroisse. Ça peut être c'était la vision du pasteur. C'était votre vision. 10 ans avant, pasteur. Je m'imagine que c'était votre vision. Quand vous étiez agent en théologie, vous disiez, ma vision, c'est d'être... Et aujourd'hui, je suis fier de vous. Parce que vous dirigez une grande paroisse. Et vous le faites correctement, bien sûr. Avec les collèges des pasteurs qui vous appuient. Oui, applaudissons pour ça. Moi, j'en suis fier. Il faut être fier d'appartenir à une église qui est bien dirigée. Bien sûr, il n'est pas seul accompagné des collègues pasteurs, mais aussi des différents ministères et commissions, les anciens, les diacres et consorts, voilà. Et le MJC pour l'activité d'aujourd'hui. Alors, fixez-vous des objectifs, chers jeunes. Dites-vous, dans ma vision, d'ici 2030, il faut qu'à 2025, j'ai déjà fait ça. Et travaillez en fonction de ça, et cela fait ça en conséquence pour ne pas rater votre objectif. Et maintenant, de manière permanente, et là nous sommes au point 6, il faut bien planifier votre temps. Et la planification se fait heure par heure, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Si je vous dis mon programme d'aujourd'hui, vous allez vous étonner. Je me suis réveillé le matin, j'avais un programme d'être au service anglophone, comme d'habitude avec la famille, je l'ai fait. J'avais un programme entre les services anglophones et 11h, j'ai réalisé 2 programmes. Et j'ai encore d'autres programmes qui vont suivre après ici. Et à la fin de la journée, je vais faire l'évaluation. Est-ce que j'ai réussi? Et quand Emery m'a envoyé un message de rappel, il était 11h, je lui ai dit, je serai là à 11h45. Et à 11h44, j'étais au parking. Parce que je me suis fixé un programme. À un moment donné, mon téléphone, je l'ai éteint. Mon téléphone, il est éteint. Il est éteint. Donc, on ne peut pas m'appeler maintenant. Parce que si je le laisse allumer, il y a un appel que si je l'aperçois maintenant, là, ça va perturber mon cerveau. Vrai ou faux? Imaginez-vous que je suis en train de prêcher là et je vois que c'est le gouverneur qui appelle. Pensez que je serai stable. Et là, nous disons, focalisez-vous à ce qui est planifié à ce moment-là. Je ne dis pas que vos téléphones doivent être fermés, mais pour certaines activités, il faut les fermer.
Parce que même le 1 bip, là, ça va vous faire... Par exemple, si le... quelqu'un qui fait la permanence à la maison m'appelle maintenant, là, je vais commencer à me poser des questions. Est-ce qu'il y a un enfant qui est blessé? Est-ce qu'il y a ceci? Et ça va me perturber. Parce que ce qui est planifié pour moi maintenant, là, c'est d'animer cet enseignement. Mais c'est dommage aujourd'hui, ces éléments sont devenus des éléments de la distraction. Et beaucoup de jeunes sont devenus moins productifs à cause des gadgets. Soit il est en train de suivre la télévision, soit il est au téléphone, et les gens ont perdu même le sens de la vie à cause de ça. On va aussi en parler dans la suite, il y a un point qui est prévu pour ça. Alors planifiez bien votre programme, planifiez votre journée. En fait, vous avez 24 heures. Je vous ai dit le dimanche passé que même pour les élèves, votre journée a 24 heures. Mais vous êtes élève. Mais à l'école, vous faites combien de temps? À l'école, c'est de 7h à 13h avec l'étude jusqu'à 15h, ceux qui vont traîner jusqu'à 16h. Et là, vous avez déjà étudié les cours et vous avez aussi révisé. En principe, dans le système normal, à 17h, si vous êtes organisé, vous êtes déjà libéré. Mais le reste des temps, là, vous en faites quoi? Moi, il fut un temps, j'étais élève et le soir, j'allais vendre les kérosènes. Et là, j'étais à 6e primaire, 1er CO. Et j'avais du temps pour le faire. Je le faisais entre 17h et 20h. Et cela ne m'a pas empêché de réussir avec des bonnes notes. Mais qu'est-ce que vous faites de votre temps? Vous êtes étudiant. Vous faites quoi de vos 24 heures? Il est possible qu'on planifie bien ces 24 heures et qu'on se sent plus productif que lorsqu'on ne planifie pas. Parce que c'est lorsque vous avez planifié que vous savez vous focaliser sur ce qui est essentiel. En fait, celui qui n'a pas planifié, lui, il est ouvert en tout. Moi, ça fait un temps, je n'ai pas eu le temps de suivre un film pendant 2 heures de temps. La dernière fois que j'ai suivi un film pendant 2 heures de temps, c'est j'étais dans un bateau. J'étais dans le bateau et on a projeté un film. Mais dire je m'assois, je commence à suivre une série pendant 2 heures de temps, ce n'est pas dans mon agenda en fait. Le peu de temps que j'ai pour suivre la télévision, c'est quand on est en famille. Mais aussi là, étant nous en famille, on éteint la télévision. Parce que c'est le temps pour nous de faire quoi? D'échanger, de communiquer entre nous. Mais aujourd'hui, les gens vivent en désordre. Quelqu'un peut suivre toute une série. Je me souviens quand il y avait 24 heures chrono. Ça faisait combien de temps cette série-là? Ça prenait des heures. Et il y a des gens qui ont suivi et ils pouvaient vous restituer tous les épisodes. Et ça vous prend du temps. Mais imaginez-vous si ce temps vous le dédiez à une activité productive, à entretenir un jardin ou une activité d'élevage. Ça vous ferait du bien parce que ça améliorerait votre situation économique. 7e point, savoir lire ses priorités et dire non à ce qui n'est pas prioritaire. En fait, dire non, ce n'est pas un péché. Sachant que les sollicitations sont toujours multiples, il est important de fixer des priorités et les hiérarchiser. Il faut même hiérarchiser. Moi, je vous ai dit que mon extrême, ma priorité des priorités aujourd'hui, de 11h à 14h, était focalisée sur ces programmes ici. Donc, même si on m'appelait qu'il y a un deuil qui vient d'intervenir, j'allais dire, précédez-moi, je vais vous y rejoindre. Parce que ces programmes de maintenant, c'est ma priorité des priorités. Et les téléphones maintenant ont des systèmes de rappel. Aujourd'hui, c'est ridicule que quelqu'un dise « Oh, j'ai oublié les rendez-vous. » C'est ridicule. Alors que vous avez un outil pour faire quoi? Pour rappeler. Moi, aujourd'hui, quand j'ai un programme, hier, j'ai eu un appel. On m'a appelé à la radio Capi que j'interviens dans une émission demain à telle heure. Et directement, j'ai fait un rappel, j'ai mis dans mon téléphone. Mais avant de dire oui, j'ai d'abord vérifié. Est-ce que mon programme de demain me permet? J'ai vérifié, j'ai dit c'est bon, ok, allez-y, j'accepte. Et je programme ça. Ça m'arrivait avant que je me retrouve au bureau avec deux personnes qui viennent au même moment. Et ça me faisait du mal. Donc, j'ai donné deux rendez-vous au même moment parce que je n'ai pas bien planifié. Donc, aujourd'hui, vous avez les outils qui vous aident à bien planifier. Donc, il faut bien planifier. Et quand vous avez planifié, il faut maintenant hiérarchiser les activités selon les priorités. Donc, ne vous gênez pas lorsque vous venez à mon bureau et que je dise que non, vous n'êtes pas dans mon programme de ces jours-là. Ne soyez pas scandalisés. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est difficile que quelqu'un vienne me voir si vous n'êtes pas dans mon programme. Où vous venez, vous dites seulement, je suis de passage à votre bureau, je vais vous voir. Actuellement, je ne reçois plus de gens comme ça. Pasteur, même si chez vous, pardon, je vais vous demander, est-ce qu'on peut programmer pour tel jour? Parce que quand je suis au bureau le matin, j'ai une journée déjà programmée. Donc, vous n'allez pas dire non. À un moment, les gens me disaient, bon, j'ai vu ton véhicule au parking là, est-ce que je peux monter? J'ai dit, mon frère, désolé, j'ai un programme déjà bien défini. Bon, ceux qui ne sont pas bien avisés vont dire, oh, l'achat du vouna. Oh, ce n'est même pas le cas. Pasteur, est-ce que je suis déjà venu ici à votre bureau sans vous prévenir? Non, j'appelle toujours. Je dis, pasteur, est-ce que vous serez à votre bureau le mardi à 15h? J'aimerais vous parler d'une question. Parce que je sais que le pasteur a un programme. Mais aujourd'hui, nous voyons les gens vivre en désordre. Alors, si vous êtes encore parmi ces gens-là, votre journée, elle est ouverte. Donc, vous ne profitez pas bien de votre temps. Ou bien votre agenda, il est toujours flexible. Donc, elle est lundi, elle est mardi, elle est mercredi. Vous êtes toujours flexible. Je me rappelle lorsqu'on discutait avec Emery pour ses programmes, on a discuté. Parce qu'initialement, j'étais programmé pour le dimanche prochain et l'autre, et Jérémy devait intervenir. Il y a un déplacement qui s'est fixé. Mais c'est parce que, avant de te répondre, je suis allé même voir mes réserves. J'avais même déjà réservé un billet. C'était déjà dans mon agenda. Et aujourd'hui, nous réservons les billets même deux mois avant. Tu vas voyager, mais deux mois avant, tu as déjà payé les billets. Est-ce que vous savez que quand vous payez les billets d'avion, surtout à l'international, trois mois avant, vous pouvez même les payer à moitié prix? Vous ne savez pas ça? Si vous planifiez bien, vous allez voyager en septembre, vous payez les billets au mois de mai, vous pouvez les payer à $500. Celui qui les paye une semaine avant, il les paye à combien? À 900. Parce que les billets d'avion, il y a des algorithmes qui programment. Quand il n'y a pas beaucoup de commandes, le prix est trop bas. Plus les algorithmes montrent qu'il y a beaucoup de commandes, les prix montent. C'est une programmation automatique. Donc, ayons des programmes, s'il vous plaît. Ayons des programmes. Ne vivez pas au hasard. Et cela, j'ai dit, ça concerne tout le monde. Que vous soyez élève. Au secondaire, vous devez avoir un programme. Vous devez savoir, d'ailleurs, vous avez un journal de classe. La notion du journal de classe, en fait, c'était de nous initier, de nous familiariser, de nous préparer à ces rythmes de programmation. C'est comme ça qu'il y a le journal de classe. Mais comme le journal de classe nous est imposé, on se limite à ça. Et après, on peut aller suivre un film. Et on vient le lendemain, on n'a pas fait un devoir. Combien d'étudiants arrivent le matin, ils n'ont pas fait un TP, ils commencent maintenant à copier chez les voisins. Moi, si vous demandez à tous ceux avec qui j'ai fait le secondaire, disons même l'université, à l'université, je fais 5 ans, et nous étions un groupe de 3-4 étudiants, nous, on ne trichait pas. On ne trichait pas. On s'asseyait au premier banc pendant les examens. Je vous dis vrai. Des gens, avec des gens fait les sciences économiques, même l'examen le plus difficile, c'est ce qu'on appelle méthode quantitative en économie. Même les statistiques, les gens se communiquaient les réponses pour se rassurer que vous êtes dans les bons chemins. On ne trichait pas. Et moi, je n'ai pas triché. Mais vous savez ce que ça m'a donné quoi? Quand j'ai eu ma licence, c'était facile de diriger une entreprise. Parce qu'en fait, je ne trichais pas. Si vous trichez à l'école, dans la vie professionnelle, ça va vous rattraper. Mais pourquoi les gens trichent? C'est parce que vous n'avez pas bien géré votre temps. Parce qu'un étudiant qui a suivi les cours et qui a pris le temps de réviser régulièrement et qui a bien géré son temps de blocage, pourquoi vous allez tricher? Pasteur, s'il y a des élèves qui viennent se confesser qu'ils ont triché, les étudiants, il faut d'abord leur dire comment ils gèrent le temps. Vous gérez mal votre temps, c'est comme ça que vous trichez. Même dans le paiement des impôts, lorsque vous ne payez pas à temps, vous allez être tenté de faire quoi? De tricher. Parce que vous avez raté une échéance. Même les documents du véhicule. Nous déjà, pour tous nos matériels roulants au niveau de l'entreprise, on a mis quelqu'un. Son rôle, c'est de surveiller les dates de chaque document. Donc, ça ne peut pas nous arriver qu'il y a un document qui est expiré. Parce que ça va encore nous pousser à faire quoi? À tricher. Et donc, une bonne gestion du temps vous aide aussi à marcher dans la bonne voie et être en harmonie avec votre Créateur. Alors, nous allons maintenant, avant le dernier point, c'est prendre des moments de repos pour se reconstituer et reprendre les forces pour demeurer efficace. En fait, il n'est pas juste question de travailler, mais il est aussi question de repos. Combien d'entre vous, du lundi au samedi, vous avez eu 2 heures de sommeil pendant la journée? Combien? Vous voyez? C'est anormal. C'est anormal. C'est anormal. C'est anormal. Parce que nous vivons dans un rythme de vie où on ne se repose plus. Et c'est dangereux pour notre santé. Moi, je suis très jaloux de mon repos. Et quand je me repose, je ferme mon téléphone. Par exemple, hier, c'était une journée où je n'ai pas planifié des activités. Donc hier, c'était une journée de repos. Et toutes les personnes qui m'ont appelé, je leur disais, j'étais en repos. Donc, je n'ai pas planifié travailler. Et pendant ce temps, j'ai fait du sport, j'ai pris le temps de dormir. Malheureusement, ce sont des bons moments qui nous manquent. Là, nous sommes dans Genèse 2 et en 3. Nous trouvons que Dieu, au 7e jour, il a fait quoi? Il s'est reposé. Dieu, il est éternel. Dieu, il est infini. Mais il a pris le temps de se reposer. Mais nous, on ne se repose pas. On ne se repose pas, surtout lorsqu'on est très engagé dans l'œuvre de Dieu. C'est vrai, le dimanche, c'est le sabbat. Mais nous devons aussi nous rassurer, à part ce que nous faisons, est-ce que nous avons le temps pour nous-mêmes? Je savais que j'ai un dimanche plein. Le samedi, j'ai programmé le repos. Il faut au moins, pour la semaine, planifier un jour où vous vous reposez. C'est très indispensable. Donc, le repos, c'est un arrêt de toute activité susceptible de solliciter ou de fournir un effort physique ou intellectuel. Donc, tout ce qui peut solliciter votre cerveau ou ce qui peut amortir votre corps, vous vous en débarrassez. Le repos est indispensable après un temps donné de travail. Aujourd'hui, même quand on donne aux travailleurs les congés, ils n'en profitent pas. Actuellement, moi, je me suis imposé avec mon épouse, on a un programme de vacances. On a un programme avec les enfants, on a un programme aussi, nous deux. Oui, l'année passée, on a pris 2 semaines, on est allé quelque part, loin, très loin. Et on a laissé les enfants, on a laissé quelqu'un qui s'occupe des enfants. Ça nous aide aussi comme couple de nous reconstituer. Et nous avons beaucoup de ces moments-là. Ça ne demande pas forcément l'argent. Non, il ne faut pas dire que c'est l'argent. Le repos n'est pas lié à quoi? À l'argent. Tu peux te décider d'aller quelque part où tu ne vas pas payer ou bien tu vas juste boire une bouteille de sucré. Il y a des endroits comme ça au bord du lac et tu te reposes, tu te détends. Faisons attention aux gadgets qui nous privent souvent de repos. Beaucoup de gens confondent les repos et suivre un film. Suivre un film, ce n'est pas le repos. Quand vous suivez un film, vos yeux, donc votre cerveau est en train de travailler. Parce qu'il est en train de mémoriser. Mais beaucoup de gens pensent que suivre la télévision, c'est reposer. Non, c'est travailler. C'est vrai, ça vous détend, mais ça ne repose pas votre cerveau. La preuve est que vous mémorisez. Et un bon réponse, c'est lorsqu'on se déconnecte. Vous n'êtes pas sur WhatsApp. Vous savez, moi, il y a une activité. Excusez-moi, je ne vois pas les statuts sur WhatsApp. Je me demande quand est-ce que les gens voient les statuts. Si vous postez les statuts, moi, je ne vois pas. C'est une activité que j'ai annulée. TikTok, j'ai refusé. Excusez-moi, pasteur, si vous pouvez, je ne suis pas sur TikTok. Bon, c'est par rapport à moi, en fait, parce que mon emploi du temps ne me permet pas de voir TikTok. Donc, TikTok, j'ai refusé. Sur WhatsApp, je ne vois que le message et le groupe où je suis. Voir les statuts des gens, je ne vois pas. Ça va me servir de quoi? Excusez-moi. Ce n'est pas dans mes priorités, en fait. Bon, si vous avez du temps, faites-le, c'est bon pour vous. Alors, les gadgets, nous devons, un moment, prendre le temps d'être sans gadget. Mais certaines dorment même avec les téléphones. Un moment, moi, j'avais cette mauvaise habitude. Quand je n'avais pas le sommeil, j'allumais pour voir ce qui se passe. Mais j'ai déjà supprimé ça. Au point où nous, quand on dort, les téléphones, on l'éloigne même. Des fois même, on le sort même de la chambre. Donc, on se rassure que dans la chambre, il n'y a pas de gadgets connectés pendant les heures de sommeil. Combien dorment avec zéro gadget connecté? Vous voyez qu'ils sont rares. Bon, il y a des métiers où vous n'êtes pas autorisé à vous déconnecter, comme les pasteurs, les médecins. Oui, parce que les médecins, les pasteurs, les chauffeurs des gardes, les électriciens des gardes, les informaticiens, vous surveillez quelque chose, un réseau. Bon, à tout moment, on peut vous appeler. Et là, ce n'est pas. Vous pouvez aussi avoir un téléphone qui n'est pas connecté au réseau, un petit téléphone là, secondaire. Par exemple, moi, j'ai un WhatsApp privé que je ne partage pas. Mais je peux dire à mon épouse, je me concentre toute la journée, je passe sur WhatsApp. Mais si tu me cherches, vous allez me trouver là-bas. Mais il y a peut-être 5 personnes qui connaissent ça. Alors, au-delà des heures du sommeil recommandées par jour, on nous recommande 8 heures de sommeil par jour. Créons les moments de détente et de loisirs dans les conditions qui permettent au corps humain et au cerveau de se détendre. Et pratiquer aussi le sport pour le bien du bon fonctionnement de notre corps. Alors nous allons maintenant clôturer en lisant Galates 6:10. Et là nous lisons ceci. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tout et surtout envers les frères de la foi. Ici, il est question de mettre Dieu au centre dans la gestion de notre temps, mettre dans notre agenda des moments personnels avec Dieu. Ayons les moments personnels aussi pour nous, des moments avec Dieu, les temps de méditation, les temps de prière, les temps de prière vespérale, les temps de break personnel pour la prière, les jeûnes personnels suivant une périodicité donnée, retraite personnelle. Je ne peux pas publier ça, mais moi et mon épouse, nous avons chaque mois un jour dédié au jeûne. Et ça depuis que nous sommes fiancés. Donc ces jours-là, on ne mange pas. Et c'est déjà automatique. Combien de gens ont un jour de jeûne une fois le mois? Programmé. Il y en a ceux qui ont même des fréquences hebdomadaires. Nous, on a une journée mensuelle, moi, où on est en prière sous jeûne. Et c'est automatique. Quand cette journée arrive, on ne prend ni café au bureau, on ne peut que prendre de l'eau pour des raisons physiologiques. Engagez-vous dans un ministère précis en sein de l'Église, parce que c'est aussi une de nos obligations. Programmons des œuvres caritatives dans la gestion de notre temps. Lorsqu'on dit on va les prisonniers, c'est aussi des activités importantes pour nous. Et surtout, imposons-nous une marge de flexibilité pour des sollicitations dans le cadre de l'œuvre de Dieu. C'est vrai, lorsque Dieu nous appelle à un certain moment, nous sommes invités à un certain niveau de flexibilité. Donc, parce que c'est Dieu, en fait. Et on dit que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Cela nous invite à une certaine flexibilité, mais sans faire des dégâts. Je dis bien, flexibilité sans faire des dégâts. Je ne vais pas rater une réunion au service où je suis responsable parce que le pasteur m'a demandé de venir faire une activité. Je vais négocier avec les pasteurs pour qu'il y ait harmonie, que je ne fasse pas des dégâts ici, que je ne fasse pas aussi des dégâts au niveau de mon service. Et nous allons clôturer par la lecture du psaume 92 qui dit ceci. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Levons-nous pour la prière. Nous allons prier pour que Dieu nous aide à bien compter notre temps. Vous allez prier pour vous. D'abord, vous allez vous confesser pour que Dieu vous pardonne pour les manquements qui vous amènent à avoir des regrets par rapport à comment vous avez géré votre temps. Mais notre Dieu, c'est un Dieu miséricordieux. Vous allez prier que Dieu puisse vous aider à vous rattraper. Je ne connais pas votre âge. Je ne connais pas les sentiments que vous avez en suivant cet enseignement. Mais j'avais que chacun de nous puisse prier que Dieu l'aide à se rattraper. Et qu'à un moment de votre vie, vous puissiez, comme Siméon, dire, j'ai atteint, je me sens épanoui par rapport à ce que je devais faire. Maintenant, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur se rendre, s'en aller en paix. Donc ici, je viens de dire qu'il faudrait qu'à un certain moment de notre vie, je ne sais pas à quel âge, vous vous sentiez avec un sentiment d'accompli. Ce qui n'est pas souvent le cas aujourd'hui. Alors vous allez prier pour vous, que Dieu vous aide aussi à être discipliné dans la gestion de votre temps, à être un bon modèle et que vous puissiez être parmi ces gens-là qui profitent pleinement de leur temps. Prions. Vous allez prier pour vous et je vais lever ma voix. Seigneur Dieu, je te bénis pour cet enseignement de ces jours. Merci Seigneur Dieu parce que mon bien-aimé, ma bien-aimée qui a suivi cet enseignement, tu connais les sentiments qui l'animent maintenant. Seigneur Dieu, tu es un Dieu miséricordieux, Père. Pardonne-nous, Seigneur Dieu. Pardonne mon frère, pardonne ma sœur qui se reconnaît n'avoir pas bien fait usage de la gestion de son temps. Et Seigneur Dieu, je prie pour mon frère et ma sœur qui prend aujourd'hui un engagement de partir à zéro par rapport à la manière dont elle va gérer son temps, Seigneur Dieu. Merci Seigneur Dieu parce que tu vas nous donner la discipline. Tu vas nous donner Seigneur Dieu l'essence de planification. Tu vas nous donner l'essence d'organisation pour que nous soyons des bons gestionnaires du temps que tu as mis à notre disposition. Et merci Seigneur Dieu parce que à travers cela, tu vas nous aider Seigneur Dieu à renouveler aussi notre engagement à te servir. Tu vas aider mon frère et ma sœur à te servir plus efficacement à travers sa gestion correcte du temps. Merci Jésus Seigneur, parce que tu vas nous aider à ce que nos voeux soient accomplis. Fais Seigneur Dieu que la prière de mon frère et de ma soeur Seigneur Dieu soit exaucée. Et que Seigneur Dieu, au moment où tu viendras prendre ton église Seigneur Dieu, que nous soyons de ce côté de ceux-là qui vont recevoir la couronne de vie, parce que nous avons accompli les bons combats, parce que nous avons achevé la course, Seigneur Dieu. Merci Seigneur Dieu, parce que cette couronne de victoire nous sera tous réservée, parce que nous aurons tous fait bon usage du temps qui nous a confié, Seigneur Dieu. Merci Seigneur Dieu, parce que tu exauces les prières de mon frère et de ma soeur. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.
Amen.
Merci.